L'Avent nous prépare à la fête de Noël. Jean-Baptiste, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, lance une interpellation vigoureuse pour se préparer au Seigneur qui vient. Et c'est Anne Pommet qui va nous proposer de revenir à ce texte.
Elle se retrouve dans l'évangile selon Matthieu du chapitre 3 du verset 1 à 10. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée.
Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Rendez droit ses sentiers.
Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain et confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, Jean leur dit
« Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham, car je vous le dis ». Des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu.
Je suis le Seigneur, le Lima et C'est le cousin de Jésus, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Un radical qui jeûne et ne mâche pas ses mots, comme les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il est perçu par les foules comme le prophète Élie de retour sur terre, annonçant la venue prochaine d'un roi idéal envoyé par Dieu. D'où le succès de Jean-Baptiste à une époque où le peuple est fatigué de vivre sous l'oppression romaine, sous l'occupation militaire, subissant les corvées obligatoires et des impôts très lourds pour le compte de l'empereur, qu'il faut adorer. 8 siècles avant cela, Ésaïe voyait les erreurs de gouvernance du roi Akaz et la corruption de sa cour, la maltraitance du petit peuple. Comment ne pas penser aujourd'hui à ces millions de personnes qui vivent sous des régimes oppressifs et qui rêvent d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. Celles et ceux qui se lèvent, qui résistent dans ces pays-là, le payent de leur liberté et souvent de leur vie, comme Jean-Baptiste va le payer de sa vie. Comme Chagouta Kirtan, Chagouta Kiran, chrétienne du Pakistan, condamnée à mort pour blasphème. Ces assoiffés de justice, Jésus dira d'eux qu'ils seront rassasiés et qu'ils sont bien heureux, car le royaume des cieux est à eux. Entre parenthèses, Matthieu est celui des 4 évangélistes qui évoque le plus souvent le royaume des cieux. C'est très intéressant. Cette année, c'est encore la parenthèse, on commence l'année liturgique avec la lecture de Matthieu pour les dimanches ordinaires. Et toujours Jean pour les jours de fête. C'est ça la liturgie qui est en accord avec les églises qui sont d'accord pour l'œcuménisme, à savoir l'église luthéro-réformée et l'église catholique. La colère de Jean-Baptiste a quelque chose d'intéressant pour nous. D'abord, cette colère n'est pas adressée à l'ensemble des gens qui viennent se faire baptiser, qui sont plutôt des gens de bonne volonté, surtout le petit peuple. Mais cette colère-là, elle est adressée, elle est ciblée sur les sadducéens et les pharisiens qui se présentent pour être baptisés. Ce sont les religieux les plus zélés. Pour eux, numéro un, l'obéissance à la loi, au iota près, et la pratique des rites. La pratique des rites. Alors, ce sont donc des gens très très zélés qui ont tendance à mépriser les autres. C'est ça le problème. Ils se croient assurés de leur salut. De par leur appartenance religieuse, nous on est les enfants d'Abraham, et de par leur pratique. Matthieu vise aussi la communauté dont il est membre, parce que la communauté mathéenne, elle est faite surtout de juifs qui se sont convertis, contrairement aux premières communautés animées par Paul, ou créées par Paul, où ce sont des pagano-chrétiens, ils sont issus du paganisme. On parle de judéo-chrétiens et de pagano-chrétiens. Je ferme la parenthèse. La colère du Baptiste vaut aussi pour toutes les églises chrétiennes, à toute époque, y compris aujourd'hui. Pas seulement pour les églises du 1er siècle après Jésus-Christ, à savoir les églises d'Asie mineure, qui sont invectivés dans l'Apocalypse pour leur hypocrisie, etc. Cette remarque, ces invectives aussi de Jean-Baptiste, sa colère, elle vaut comme avertissement pour tous les temps, pour toutes les églises, pour tous les croyants. Le salut est toujours offert mais il n'est jamais acquis. On ne peut pas s'auto-satisfaire d'être les élus, d'être les sauvés. L'avertissement est clair pour tous les croyants qui s'appuient sur leurs traditions et leurs pratiques religieuses et qui s'imaginent être du bon côté. Matthieu rapportera les paroles de Jésus au chapitre 7. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. À nous donc de mettre en œuvre la parole de façon originale, propre à chacun, chacune de nous, selon nos talents, selon notre situation. C'est ainsi que l'on entre en communion avec Dieu et que l'on a sa part au royaume. Une dernière précision concernant la relation entre les deux cousins, Jean-Baptiste et Jésus. Avant de se lancer sur les chemins de Palestine, Jésus est resté longtemps, on n'en sait rien en fait, un certain temps, auprès de son cousin Jean-Baptiste, dans une région désertique. Mais après son baptême, où il lui est révélé qu'il est le bien-aimé de Dieu, l'élu du Père, il se détache de Jean-Baptiste et il différencie sa prédication. Jean-Baptiste annonce un Messie roi, comme l'avait fait Ésaïe 8 siècles avant lui. Un Messie roi justicier à la violence radicale. Rappelez-vous, il tranche à la hache. Il déracine les mauvais arbres. Jésus, lui, se présente comme celui qui est doux et humble de cœur, venu pour sauver ce qui était perdu. Son style est tout autre. Sa prédication est d'abord une bonne nouvelle. Le royaume, il est déjà là. Les guérisons et les conversions du cœur en sont le signe. Pour terminer, je vous invite à lire le chapitre 11 de Matthieu, versets 2 à 19. Bon, ça fait 17 petits versets, pour mieux comprendre la relation entre Jean-Baptiste et Jésus. Vous verrez que dans ces versets-là, Jésus donne des indices sur sa messianité, sur son identité de fils de Dieu, sans le dire explicitement. Et il rend un très bel hommage à son cousin Jean-Baptiste, qui est en prison et qui va être décapité.